Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un document qui pourrait faire un peu peur au premier abord.
Ah oui, clairement.
Une circulaire de l'administration fiscale israélienne. Mais restez avec nous, parce que derrière le jargon, il y a une vraie partie d'échecs économiques.
C'est exactement ça.
Le document date de janvier 2026 et il définit ce que c'est qu'une société à nombre restreint d'associés. Notre mission, c'est de décoder ça.
Tout à fait. Et de comprendre la tension qu'il y a derrière.
Laquelle ?
C'est une tension fondamentale. Comment est-ce que l'État peut encourager les entreprises à réinvestir, à créer de la richesse, tout en s'assurant que les actionnaires ne transforment pas leur société en, des tirelires personnels pour éviter l'impôt.
D'accord, l'équilibre précaire.
Voilà. Et ce document, c'est une loupe posée sur cet équilibre.
Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut commencer par la base du système. La source nous rappelle qu'en Israël, et c'est le cas dans beaucoup de pays, l'imposition se fait en deux temps. C'est bien ça, hein ?
C'est ça. C'est un système à deux niveaux. Premier temps, la société fait des bénéfices, elle paie un impôt dessus. L'impôt sur les sociétés.
Classique.
Très classique. Et le deuxième temps, c'est si la société décide de distribuer ce qui reste aux actionnaires.
Sous forme de dividendes.
Exactement. Et là, les actionnaires paient à leur tour un impôt sur ce revenu qu'ils reçoivent.
Sauf que ça, ça crée une incitation assez évidente. Tant que l'argent reste dans la boîte...
On ne paie pas la deuxième couche d'impôt.
C'est le fameux report d'imposition.
Exactement. Et sur le papier, l'idée est plutôt vertueuse. Le législateur se dit « Bon, laissons cet argent dans l'entreprise. »
Pour qu'elle investisse.
Voilà. Pour qu'elle achète des machines, qu'elle embauche, qu'elle innove. Bref, pour qu'elle alimente l'économie réelle.
Le problème, et c'est le cœur de notre document, c'est que la réalité est souvent un peu différente.
Oui, c'est là que le bât blesse.
Le document pointe un abus. Beaucoup de ces entreprises, au lieu d'investir, accumulent. Elles deviennent des sociétés portefeuille.
Ou des tirelires, comme le dit le texte, c'est une image assez parlante, je trouve.
Ah oui.
Les bénéfices s'entassent et ils sont placés dans des actifs financiers, des actions, des obligations.
Rien à voir avec l'activité de l'entreprise, en fait.
Exactement. Le capital est thésaurisé, il est bien au chaud, à l'abri de l'impôt sur les dividendes.
Mais il ne contribue plus à la croissance.
Voilà. Et c'est précisément ce comportement que la législation qui a été mise à jour en 2025 veut neutraliser.
En s'attaquant à ces fameuses sociétés à nombre restreint d'associés.
On y est.
On y arrive. Alors, comment le fisc définit une de ces sociétés tirelires potentielles ? Le document pose trois conditions.
Oui, trois conditions cumulatives. C'est important. Il faut cocher les trois cases.
D'accord. La première.
Le contrôle doit être entre les mains de 5 personnes ou moins.
5 personnes, d'accord. Deuxièmement.
L'entreprise ne doit pas être une société filiale d'un grand groupe qui, lui, n'est pas à nombre restreint.
Logique. Et la troisième.
Le public ne doit pas y avoir un intérêt réel. Ce sont vraiment les trois piliers de la définition.
D'accord. Restons sur le premier pilier. C'est le plus important. 5 personnes ou moins. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce que le fisc entend par contrôle ? C'est juste détenir plus de 50% des actions ?
Ah, ce serait trop simple. C'est bien plus subtil que ça.
Je m'en doutais.
Le contrôle est établi si un petit groupe détient plus de 50% de l'un de ces trois éléments.
Ah, il y a un choix.
Oui. Le capital social, ou les droits de vote, ou alors les droits aux bénéfices. Un seul de ces trois critères suffit.
D'accord. Donc c'est très large. Et ce contrôle peut être direct ou indirect, j'imagine.
Tout à fait. Le document insiste là-dessus. La loi cherche la réalité du pouvoir, pas seulement l'apparence juridique.
Et pour la deuxième condition, cette histoire de société filiale, c'est une sorte d'exemption, une porte de sortie ?
C'est une exemption très logique, en fait. Imaginez une entreprise qui est détenue à 90% par un grand groupe coté en bourse, avec des milliers d'actionnaires.
Oui.
Même si cette filiale est gérée par deux directeurs, en réalité, elle appartient à une entité très large, très ouverte.
Donc elle n'est pas visée ?
Non. La loi dit que si une société est détenue à plus de 80% par des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes à nombre restreint, alors elle est exemptée.
Le but n'est pas de pénaliser les filiales de grands groupes.
Non, le but est de cibler les structures qui sont vraiment fermées, du début à la fin de la chaîne de détention.
C'est clair. Et le dernier point, l'intérêt réel du public. J'imagine que ça exclut de fait les entreprises cotées en bourse.
Principalement, oui. Une société cotée, une société d'État ou même une entreprise privée dans laquelle l'État a une participation significative.
Disons plus de 20%.
Oui, par exemple. Eh bien, cette société est considérée comme ayant un intérêt public. Par définition, elle ne peut pas être une simple tirelire privée.
D'accord. Donc on a un portrait robot, une entreprise privée, contrôlée par un tout petit groupe et sans lien avec une grande structure ouverte.
C'est exactement ça.
D'accord. La règle de base, c'est donc 5 personnes ou moins. Mais j'ai l'impression que le diable se cache dans les détails. Comment est-ce que le fisc compte jusqu'à 5?
C'est là que ça devient vraiment fascinant, je trouve.
Ah oui?
Parce que le concept de 5 personnes est en fait très relatif. La loi va regrouper plusieurs individus.
Pour n'en faire qu'un seul.
Seule personne.
C'est proche, c'est-à-dire?
Parents, enfants, frères et sœurs.
Ah oui, quand même. Donc, si 3 frères détiennent une entreprise...
Pour le fisc, il ne voit pas 3 personnes. Il n'en voit qu'une.
Donc, il coche déjà la case.
Exactement, mais ça va plus loin. La loi regroupe aussi le créateur d'un trust et son fiduciaire, celui qui gère le trust.
Il compte pour un?
Pour un. Et, de manière plus spécifique au contexte israélien, tous les membres d'un kibbutz, même s'ils sont 400, comptent pour un.
Tous les 400?
Tous les 400. Et enfin, les associés d'une société en nom collectif sont aussi vus comme une seule entité.
C'est impressionnant. On sent bien la volonté de passer outre les montages juridiques.
Totalement. L'exemple numéro 4 dans la source est un cas d'école. Il montre une structure qui a, à première vue, incroyablement éclaté.
Oui, on pourrait s'y perdre.
Mais si on applique ces règles de regroupement, c'est simple, on a un trust et son créateur égale, bim, une seule personne.
D'accord.
On a un kibbutz de 400 membres égale une seule personne. On a un père et son fils qui sont actionnaires égale une seule personne.
Et donc, un organigramme très complexe
se réduit soudain à un noyau de contrôle de, disons, 5 personnes. Et si ces 5 blocs détiennent ensemble plus de 50% de l'entreprise, c'est une société à nombre restreint.
On voit bien comment un actionnariat qui paraît très dispersé se retrouve en fait consolidé en un noyau de contrôle très restreint aux yeux de la loi.
C'est une démonstration magistrale de la logique qui vise la substance plutôt que la forme.
C'est fascinant de regrouper un kibbutz de 400 membres comme une seule personne. D'un côté, c'est logique pour trouver le centre de pouvoir.
Oui.
Mais de l'autre, n'est-ce pas un peu une fiction juridique par rapport à leur réalité interne?
C'est une excellente question et c'est tout le débat. Le fisc fait un choix pragmatique. Il considère qu'un kibbutz ou une famille agit comme un bloc d'intérêt unique face à l'entreprise.
La cohésion du groupe prime sur le nombre.
Voilà. C'est discutable sur le plan philosophique, peut-être, mais fiscalement, c'est d'une efficacité redoutable pour contrer l'éclatement artificiel du capital.
D'accord, je vois. La loi ne s'arrête donc pas aux apparences. Et j'ai vu dans le document qu'elle va même encore plus loin. Elle s'intéresse à des actions qui n'existent pas encore. Je parle des options d'achat. C'est bien ça, Evelyne?
Exactement. Et c'est là que les législateurs montrent qu'ils ont vraiment un coup d'avance. Ils ne se contentent pas de regarder l'actionnariat à l'instant T.
La photo du moment.
Voilà. Ils anticipent une astuce bien connue, donner l'illusion d'un capital dispersé tout en gardant dans sa poche des options qui peuvent, du jour au lendemain, tout changer.
On donne des petites parts à plein de gens, mais on garde le vrai pouvoir en coulisses.
C'est ça l'idée. Et donc, pour contrer ça, ils font un calcul qui inclut ce pouvoir potentiel.
Comment ça marche ?
Ils font ce qu'on appelle un calcul sur une base entièrement diluée. Le principe est de se demander quelle serait la répartition du capital si toutes les options d'achat en circulation étaient exercées aujourd'hui.
Ah oui, on ne regarde pas la photo, on regarde le film en entier avec les scènes futures potentielles.
C'est une mesure anti-évasion qui est extrêmement puissante.
Donc, si on a un groupe de 4 personnes qui détient 45% des actions...
A priori, ils ne sont pas majoritaires.
Mais si l'un d'eux a des options pour acheter 10% de plus...
Alors, sur une base diluée, le total de leur bloc passe à plus de 50%. Et le statut de l'entreprise bascule.
Et elle devient une société à nombre restreint. Même si, dans les faits, les options n'ont pas encore été exercées.
Fisc s'intéresse au contrôle économique réel et potentiel, pas juste à la structure juridique d'un instant.
Il anticipe les mouvements.
Exactement. L'exemple numéro 2 du document est un cas parfait de cette situation. Deux individus, grâce à des options, se retrouvent avec un contrôle potentiel majoritaire. La loi ne se laisse pas berner.
Bon, après cette plongée en apnée dans la fiscalité, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si je devais résumer... Je dirais premièrement la définition de cette société à nombre restreint est un outil chirurgical.
C'est le point central. Ce n'est pas une mesure contre toutes les PME. C'est une mesure contre l'accumulation de bénéfices non productifs.
Oui, très ciblée. Deuxièmement, on a vu que la notion de contrôle est bien plus large que la simple détention d'actions.
Infiniment plus large. Elle inclut les droits de vote, les droits aux bénéfices. Et surtout, elle regarde à travers les montages, les participations indirectes et même le pouvoir futur.
Et enfin, le troisième point qui me marque, c'est que la loi est un véritable détective. Elle enquête sur la réalité du pouvoir.
Oui.
Elle suit les liens du sang, elle déchiffre les trusts, elle regroupe des collectifs et elle anticipe les coûts futurs avec les options. C'est une quête de la substance économique derrière le voile juridique.
Tout à fait. Au fond, ce document, c'est une magnifique illustration de la course-poursuite permanente entre les stratégies d'optimisation fiscale
et les législateurs qui tentent de colmater les brèches.
Exactement. Chaque règle, chaque définition, chaque exemple qu'on a discuté est une réponse à un comportement observé sur le terrain. Ce n'est pas de la technique pour la technique.
Non, c'est le reflet d'un enjeu majeur.
D'équité fiscale et de dynamisme économique.
Et tout ça, au final, nous laisse avec une question en suspens. Une question pour aller plus loin. Ce document nous a expliqué avec une précision redoutable comment on identifie ces sociétés. Mais il ne dit pas ce qui se passe après.
Ah oui.
Une fois qu'une entreprise est étiquetée, société à nombre restreint d'associés, quelles sont concrètement les conséquences? Comment l'État s'y prend-il pour forcer la distribution des bénéfices ou pour taxer cet argent accumulé? Et surtout, quel est l'impact de ces mesures sur des entreprises qui sont souvent familiales et qui constituent l'épine dorsale de l'économie?